France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Pourquoi pour changer, il faut toujours mourir un peu en dedans? Pourquoi une nouvelle chose demande toujours d'en laisser une autre? Une femme quitte Paris et un peu de son passé pour une maison du Finistère. Il est question de mouvement, de solitude, d'amitié, de côte bretonne et de mourir un peu dedans. Donc, dans le dernier livre d'Anne Scott, qui vient de recevoir le prix Renaudot 2023, elle est notre invitée aujourd'hui pour en parler. Comme chaque jeudi, vers 15h50, nous prenons des nouvelles du livre, mais cette fois en dehors de nos frontières. Romain Chanson nous appelle de Johannesburg, Afrique du Sud, pour évoquer une adaptation du roman lauréat du Booker Prize au théâtre. Et en fin d'émission, ce sont vos trouvailles de lecture qui nourrissent notre grand jeu des pages musicales. C'est donc grâce à vous que l'on se quittera en chanson. Vous avez le programme, on est ensemble pour une heure. Merci pour votre fidélité. Bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club. Et bonjour Anne Scott.
Et bonjour.
Votre roman Les Insolents a reçu le prix Renaudot 2023 en cette rentrée littéraire. C'est votre 10e, est-ce que tout le monde a bien compté?
Peut-être, je crois.
Peut-être, ouais, on n'a qu'à dire 10, c'est assez joli, c'est assez rond.
Peut-être il y en a un dans les 10 qui n'est pas un roman.
Ah.
Je crois bien, peut-être 9, peut-être 10. Peut-être
disons 9 romans disons 10. En tout cas, bienvenue à vous dans le Book Club. Il y a un des personnages qui relie Victor Hugo dans Les Insolents. Il veut un souffle héroïque. En tout cas, nous, ici, tout commence par un questionnaire de lecture pour faire le portrait de nos invités en tant qu'ils sont d'abord peut-être des amoureux des livres, en tout cas qu'ils ont une histoire avec les livres. Mm-hmm. Est-ce que vous vous souvenez quand et où vous auriez appris à lire Anne Scott?
À lire, c'est-à-dire
à lire
au sens propre.
Ah, au sens propre.
Non,
ouais.
J'ai aucune idée.
Aucune idée.
À quel âge on apprend à lire?
On apprend à lire généralement, ça dépend, mais on va dire 5, 6. Il y en a qui sont vraiment très précoces, qui racontent des trucs, leurs grands frères et tout ça à 4 ans. Il y en a qui sont un peu plus âgés. Non, ça vous dit rien.
Grand frère? J'ai pas de grand frère.
D'accord.
Pas de grande sœur?
Ouais. Institutrice, école?
J'ai pas de souvenir avant 10-12 ans.
Ok.
Du tout. Non, je me souviens de la première chose que j'ai aimée, c'était le Père Goriot de Balzac.
Mais vous aviez 10 ans?
Non, j'avais pas 10 ans, j'avais en avoir 16, ouais. 15, 16.
Et avant ça, aucune histoire avec des livres?
Aucun souvenir,
ouais.
Non, j'ai pas de souvenir. Si, Pouf et Noirot, en fond du camping. C'était un petit truc pour enfants, un petit livre cartonné. Et une histoire de petit ours, enfin des trucs pour enfants, ouais, ça je me souviens de ça.
Et vous aimiez ça?
Ouais, et Babar.
Vous aimiez lire?
Ouais.
Vous lisiez seul?
Vous voulez savoir si j'avais un don quand j'avais 5 ans? Non, je crois pas.
Non, pas ça. Je voulais savoir si c'était quelque chose qui était plutôt partagé ou si c'était plutôt quelque chose qui vous appartenait, qui était ce qu'on dit un peu, votre
non,
monde
j'étais
à vous.
Non, j'étais pas assez abandonnée quand j'étais toute petite pour avoir besoin d'avoir un monde à moi. C'est
ouais.
Venu beaucoup plus tard, ça.
Donc, 16 ans Balzac et après?
Après, j'ai adoré Mauriac, François Mauriac. Et après, très vite, vers 18 ans, j'ai découvert Les Américains. Bukowski, Selby, Burroughs, toute la Beat Generation. Et le premier contemporain que j'ai lu, c'était Bret Easton Ellis. L'année où il est sorti, donc il devait avoir 20 ans, et moi, pareil.
Première fois que vous lisez un livre écrit par quelqu'un qui vit en même temps que vous.
Et qui a un an de plus que moi et qui vit quasi à peu de choses près la même chose, ouais.
Ça vous fait quoi?
Donne envie de faire la même chose.
Donc vous vous mettez à écrire à ce moment-là?
Pas à cause de lui, mais un truc combiné de plusieurs choses. Ouais, c'était ça. Ça et avoir entendu un morceau de Nina Simone à la radio où je me suis rendu compte qu'elle racontait une histoire. Et je me suis dit, ah oh, waouh, c'est ça que j'ai envie de faire. Parce que je voyais des images en entendant ce qu'elle chantait. J'avais jamais fait attention plus jeune en écoutant du rock ou de la pop. J'avais jamais fait attention.
Quoi,
en fait,
au rapport entre le langage et les
ouais,
images
ouais,
qu'on
non,
peut se faire dans la tête?
Oui, non. Même si je comprenais les paroles. Et là, tout d'un coup, peut-être parce que c'était un après-midi dans un jardin au soleil et que j'ai vraiment écouté, j'ai entendu qu'elle racontait une histoire et je me suis dit ah ouais, c'est ça que j'ai envie de faire. Et juste après j'ai lu Ellis, ouais.
Qu'est-ce qu'il y avait dans la Beat Generation, dans ces auteurs-là qui vous parlaient et de quoi ils vous parlaient?
D'abord c'est tous des hommes,
mmh.
Donc je sais pas s'ils me parlaient en particulier, mais je crois qu'il parlait beaucoup de drogue et j'aimais bien les histoires de drogue quand j'étais très jeune. Enfin, très jeune, quand j'étais ado, post-ado. Donc, il y a eu ça. Et puis, surtout, c'est hyper créatif.
Mmh.
Et plus vivant, étrangement, que la génération perdue de Hemingway, de Fitzgerald. C'était plus, C'était plus sexy, je crois.
Plus excitant, presque.
Il y avait beaucoup de poètes dans la Beat Generation, donc c'est plus sexy.
Pourquoi c'est plus sexy, les poètes?
Ben, je sais pas, Hemingway, c'était pas très sexy. J'adore Hemingway, mais quand j'avais 16 ans, ça me... Parce que la Beat Generation était un peu proche du rock aussi. Il y a des choses, il y a des corrélations. Si on se dit William Burroughs, on pense à Patti Smith.
Attention à votre main.
Qui en a été proche, etc. C'est plus... Hemingway, c'est venu après pour moi.
Et qu'est-ce qui vient après? Est-ce que vous changez de cap? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous fait devenir une autre lectrice?
Ouais, tout d'un coup j'ai lu Truman Capote et je me suis dit ça. À un moment, je ne sais plus dans quel livre, il dit il y a une différence entre le bon travail et l'art véritable. Et il fallait viser un peu plus haut, un peu plus. Il fallait être plus exigeant.
Ça arrive à quel moment dans votre parcours?
L'envie ou la capacité?
D'abord la lecture de Capote.
25 ans.
Ah oui, c'est pas si longtemps après.
Non. Et la capacité, je sais pas, 40, 45. Enfin, je sais même pas si j'y suis, je sais pas, mais où c'est moins scolaire, ouais. Ça prend beaucoup de temps, je trouve.
Est-ce que vous cherchez quelque chose dans les livres Anne Scott, dans les livres que vous lisez?
Juste à apprendre à mieux écrire. Étrangement, le divertissement passe plus pour moi par la lecture. Il est dans les films et dans ce qui est visuel, dans la fiction. Ouais, dans le.
Ça a été le cas à un moment donné. Ça a été un pur divertissement la lecture.
Quand j'étais plus jeune, oui, ouais. J'adorais lire plein de livres. Maintenant, c'est rare que je trouve des livres de maintenant qui me parlent ou qui aient une voix qui me correspond et où je suis bien dedans. Donc, je lis quasiment pas de fiction maintenant.
Vous lisez pour apprendre à écrire.
Je relis toujours le même auteur depuis 10 ans, qui est Don DeLillo. Presque toujours le même, qui est Outre-Monde. Parce que j'essaye de me parfaire à chaque fois et que pour moi, c'est la barre la plus haute, DeLillo.
Est-ce que vous y trouvez quelque chose de toujours différent? Parce que relire, c'est ou bien avoir comme ça en tête l'idée d'un retour du même, ou au contraire que ce sera forcément différent?
Non, c'est chaque fois juste parfait pour moi, ça bouge pas.
Qu'est-ce qui est si parfait dans cette écriture?
L'équilibre des phrases, la chair, toute la texture, la couleur, l'odeur, tout est là dedans. Et il y a d'autres gens sûrement qui écrivent aussi bien, mais je le sais juste pas parce que je les ai pas lus. Je dis pas qu'il y a que lui, je dis que pour moi, pour l'instant, il y a que lui, faute d'avoir lu les autres.
Est-ce qu'il y a un au-delà de Ndelilo? Est-ce que vous avez rendez-vous avec autre chose? Est-ce que vous le savez?
Pas que je sache. Ce que j'aime le plus, ils sont tous morts.
Ça peut se relire.
Ça se relit, mais bon... je sais pas.
Est-ce que vous auriez bien aimé que Anne Scott lise quelque chose en particulier à 20 ans?
Mais j'ai lu tout ce que j'avais envie de lire.
Mais ça, c'est magnifique, bravo.
J'ai fait que ça, j'ai rien fait d'autre que lire. Et essayer d'apprendre à écrire, donc...
Rien ne vous manque a posteriori?
J'aurais aimé rencontrer Joanne Didion, qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps. Mais c'est quand on n'est pas traduit, c'est compliqué. Je ne suis pas traduite en anglais. Donc, ce n'est pas possible de parler avec les Américains ou les Anglais. Mais ouais, j'aurais bien aimé parler avec elle, ouais.
Et est-ce que justement, il y a un personnage avec qui vous avez comme entretenu une sorte de conversation?
Dans ma tête?
Ouais, dans votre tête, dans votre corps.
Dans ma tête, tous les jours, ouais. David Foster Wallace. C'est le seul écrivain, les autres c'est des musiciens, des choses comme ça. Ouais, je leur parle. Ouais, quand tu...
Et des personnages de fiction?
Le grand Maul, non. Qui n'a pas rêvé d'être la fiancée du grand Maul? Bah oui. Enfin, je sais pas, pour moi, c'est le romanesque ultime, le grand Maul. C'est ça. J'aurais dû vous dire ça tout à l'heure au lieu du père Goriot. Ça doit être le grand Maul qu'on lit en premier à l'école. C'est juste, c'est délicieux, quoi. Non?
Je sais pas.
Vous n'avez pas lu le grand... Non?
Non. Oh. Est-ce que vous avez une table de chevet?
J'ai une table... À côté de mon livre, vous voulez
dire? Oui, souvent.
Oui, et qu'est-ce qu'il y a dessus?
Oui, voilà.
Il y a le livre des archives en images d'Hemingway, que je n'ai pas encore lu. Il y a le Seigneur des Anneaux, que je n'arrive toujours pas à lire.
Je vous conseille une bonne émission du Book Club à ce propos.
Ouais?
Ouais.
Il y a... Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a les lettres à un jeune poète de Rilke, qui était un des livres préférés de mon père, qui est décédé il n'y a pas longtemps. Donc, il faut que je lise ça. Il y a son livre de chevet, qui est L'intranquillité de Pessoa. Il y a plein de choses qui attendent.
Est-ce que le fait d'évoquer la bibliothèque de quelqu'un, ce qui est un exercice qu'on fait tous les vendredis, c'est une façon de l'évoquer. Là, vous parlez de deux livres de votre père dans la bibliothèque qu'on entendra ce vendredi, celle de Noémie Lvovsky. Elle parle aussi de certains livres tenus par son père et elle dit que c'est finalement l'accès le plus direct, le plus franc, le plus sensible à quelqu'un de parti. Est-ce que vous reconnaissez là-dedans, Anne Scott?
Mais mon père était collectionneur d'art contemporain, donc j'ai récupéré toute sa bibliothèque. Enfin, récupérer, c'est pas le mot, mais j'ai hérité toute sa bibliothèque. Ouais. Donc oui, pour moi, elle est là à chaque seconde. Alors je pense qu'il y a plein de choses qui étaient plus accessibles pour lui que pour moi. Moi, je comprends pas tout ce que je lis. Mais ouais. On apprend tous les jours de ce que les gens nous laissent, ouais, ça c'est sûr, ouais.
Elle ressemble à quoi, votre bibliothèque, à vous? Même si vous ne prenez désormais plus que les exemplaires de Don DeLillo.
Physiquement?
Ouais.
Ce sont des piles horizontales. Vous voyez la librairie de Karl Lagerfeld?
Oui, je vois, j'ai découvert l'année dernière.
Tout est horizontal, parce que moi c'est pareil, ce sont des piles horizontales sur un mur, sur deux murs.
Mais avec du bois ou juste des piles de livres?
Non, c'est très sophistiqué, oui. C'est des piles, c'est des étagères en acier, moi ouais. C'est juste entassé. Donc ça tient comme ça, un peu n'importe comment, en quinconce.
Vous vous y retrouvez, il y a un classement?
Non. Il y a juste ce que j'aime le moins qui est en dessous, parce que ça monte haut, ça monte quasiment au plafond. Donc,
jamais ça tombe.
Non, parce que c'est mis de telle sorte que tout se tient, en fait. Il ne faut pas toucher. C'est juste là pour faire joli. Non, mais il n'y a pas... Enfin, vous voulez dire des bibliothèques avec des étagères où on range les choses?
Non, je m'en fiche.
Non, c'est la vôtre qui m'intéresse. Mortifère. Non, c'est pour les gens qui ont besoin d'ordre. Moi, je n'ai pas besoin d'ordre, donc c'est des piles un peu partout autour des fauteuils. Il y a des piles, même le sol.
On va aller voir votre livre à vous, Anne Scott, grâce à cette chanson de Bowie. La narratrice l'entend dans un supermarché breton. Modern Love.
I cut your paper boy. Culture.
La plupart des gens sont seuls, ou se sentent seuls, ou ont peur de l'être. C'est la première phrase de votre dernier roman, Anne Scott, et on peut dire qu'elle l'enveloppe entièrement, comme une bruine sur une plage bretonne, comme de la fumée dans un bar à l'époque, comme une humeur en tout cas, une atmosphère qui court sur 30 ans. Depuis un souvenir flash de 1992 à New York, où la narratrice suit quelqu'un pour sa beauté, pour sa façon de se tenir, pour la façon de tenir une cigarette, elle s'en trouvera dépouillée, jusqu'à une image moins flash, plus tranquille, de nos jours, un village breton, des chemins, des fleurs sauvages, quelques illusions perdues, mais quelques amis aussi aux alentours qui promettent de revenir, tout comme promet de revenir, peut-être, l'idée d'un art qui sauve. Les Insolents, apparu aux éditions Kalman-Lévy en cette rentrée littéraire, et vient d'être couronné du prix Renaudot. Peut-être partons de là, justement, Les Insolents. Anne Scott, il est beaucoup question du temps qui passe dans ce roman. Je dirais que l'insolence a une couleur au début de ce roman, et je dirais qu'on ne la perd pas complètement, elle a juste une autre couleur à la fin du roman. Comment est-ce que vous définiriez ce mot? Et si vous êtes d'accord avec moi, de quelle insolence il s'agirait au début et de quelle insolence il s'agirait à la fin?
De survivre à la solitude. Je pense qu'on a tous peur d'être seul, de finir seul, de mourir seul, d'être malade seul, de tout faire seul. Ou bien de vivre des choses qu'on ne peut pas partager. Et s'il y a encore une forme d'insolence qui existe, c'est de survivre à ça, quoi. De pas céder au désespoir, je pense.
Et la première insolence? Celle des années 90, celle qui ouvre le texte.
Bah quand on est môme, vous voulez dire, où on a peur de rien, où on ne sait pas qu'on va mourir et qu'on va vieillir et qu'on va perdre tout au fur et à mesure. Bah oui, c'est celle d'être jeune, ouais. Bah oui, je sais pas. C'est vrai qu'on dit toujours que les ados sont insolents ou arrogants, mais heureusement qu'ils sont pas encore au courant de ce qu'ils attendent, quoi. Tant mieux.
Est-ce que c'est pour ça que vous ouvrez avec cette scène de 1992, cette espèce de transport à la fois dans le temps et dans l'espace? Je dis flash parce que ça m'a fait vraiment cet effet-là. Il y a quelque chose de très court, de très cinématographique, et qui est un paysage qu'on va complètement quitter ensuite pendant tout le reste du roman Anne Scott. Ça a quoi comme valeur, cette scène d'ouverture?
Mais quand on est ado, parfois on cherche une famille musicale, ou culturelle en tout cas. Et ce que j'avais envie de dire, c'est qu'à 45 ans, elle l'a pas pour autant trouvé. On la trouve un temps, on la perd, on la retrouve, on la repère. Et bon, plus on vieillit, moins ça compte, mais on a quand même besoin d'être entouré. Alors peut-être qu'à 17 ans, on a envie d'être entouré de gens qui écoutent la même musique, et à 45, qui lisent les mêmes livres, ou qui aiment les mêmes films, ou la même nourriture. Et en fait, c'est rare, c'est vachement rare, cette complémentarité.
Oui, on y reviendra, c'est vraiment...
Cette fraternité-là avec l'entourage, c'est rare. Donc, en fait, elle est toujours aussi seule et elle l'était déjà à 17 ans.
Et pourtant, il y a quelque chose de différent dans cette solitude, dans cette scène d'ouverture. Alex, elle tente, on a l'impression qu'en effet, elle a peur de rien,
il
elle suit quelqu'un.
Il ne faut pas avoir peur, sinon tout le champ des possibles rétrécit, on recule avec la peur. Donc elle n'a pas peur à 17 ans et l'idée c'est d'avoir toujours pas avoir peur à 45. Sinon, on rapetisse. Et ça c'est terrible.
Comment est-ce qu'elle est arrivée cette scène? Comment est-ce que vous avez su que ce serait le début de ce roman?
Parce que c'est ce qui m'est arrivé à 17 ans mais en Angleterre. Et que il y a déjà des passages sur l'Angleterre dans d'autres livres. Et je me suis dit, de toute façon en plus on n'a pas le même âge. Moi j'ai 10, 15 ans presque de plus que la narratrice. Donc, c'est pas les mêmes années. Moi, c'était les années 80 à Londres et je voyais pas l'intérêt de la mettre en Angleterre dans les années 90. Je me suis dit, New York, peut-être c'est plus créatif, c'est plus vivant. Mais c'est le même principe. On va quelque part en espérant y trouver quelque chose. On perd en route, mais on gagne en repartant. Enfin, c'est. Mais tous les mômes sont seuls, non? Surtout les enfants uniques, je pense.
En tout cas, nous, on la rencontre dans cette scène-là, ouais. Alex. Et donc, il y a quelque chose d'assez flamboyant. Vous dites oui, en effet, elle perd quelque chose, elle perd tout, en l'occurrence. Son sac à dos.
Oui, mais même pas mal, quoi.
Mais même pas mal.
Mais même pas mal. Donc voilà, c'est pas grave. Donc ça va aller, en fait. Si elle survit à ces petites choses enfin, c'est difficile. On arrive dans un pays, on se fait voler son argent, ce qu'on a sur soi, son passeport, tout. Elle se fait entièrement dépouiller, son rêve se casse la figure, elle doit repartir en sens inverse, elle doit appeler sa mère en PCV. Enfin, c'est. C'est consternant, mais même pas mal. Donc elle sait qu'après, ça ira. Le reste de sa vie, ça ira parce qu'elle n'a pas peur.
Si on devait présenter cette narratrice aux gens qui nous écoutent, on dirait quoi d'Alex ?
Qu'elle essaye de ne pas avoir peur, elle essaye de rester digne et de ne pas trop se raconter d'histoire. Donc je pense qu'à partir du moment, quand on habite Paris pendant 50 ans, qu'on en a marre, il faut partir. Il ne faut pas dire j'en ai marre toujours, il faut juste dire j'en ai marre, je pars. Si on en a vraiment marre, il faut être là où on a envie d'être au moment où on a envie d'être. Ça, c'est vraiment important. Et je ne sais pas si c'est de l'insolence ou du courage ou... Je ne sais pas. Mais je pense que c'est important parce qu'on n'a qu'une vie.
En tout cas, elle essaye quelque chose.
Elle essaye, oui. Ça ne veut pas dire que c'est facile.
On la retrouve plus tard. Elle n'est plus à New York, elle n'est plus à Paris, elle est en Bretagne. Et elle a pris un train, elle fait 7 km pour aller acheter du pain. Et elle s'occupe d'une maison, c'est plus difficile peut-être que s'occuper d'un appartement parisien.
Bah, elle est toute seule, elle a une grande maison pour être toute seule, c'est un peu ridicule. Mais c'est ce qu'elle voulait, elle voulait de l'espace, elle a de l'espace, même si elle ne sait pas quoi en faire. L'idée, c'est qu'il faut se marrer un peu quand même. On ne peut pas être tout le temps dans... C'est pas parce qu'on vieillit qu'on est obligé d'être très adulte, très carré et plus jamais rien faire d'étrange. Donc elle loue une maison, elle l'a jamais vu, elle l'a vue en photo, elle s'en fout. Elle se dit ça ira, et ça va. C'est pas parfait, mais ça va. Il faut juste que ça aille. C'est le temps qu'on perd à vouloir que les choses soient parfaites. Une fois qu'elles sont parfaites, c'est quoi la quête suivante ? Pour pouvoir vivre bien, il faut juste que ça aille. Il n'y a pas besoin que ce soit parfait. Parce que dès que c'est parfait, on ne vit plus, c'est figé.
Oui, d'ailleurs, vous dites, ça va aller, elle peut rire, elle ne rit pas tant que ça dans ce livre-là, cette narratrice Alex. Mais par contre, ça va, en effet, ça tient, il y a quelque chose qui tient.
Mais c'est tout ce qu'on demande à la vie. C'est ça paraît idiot, mais c'est la simplicité, c'est ça. Allez, ne pas avoir peur, ne pas être en mauvaise santé. Le reste, c'est pas très grave, quoi.
Donc elle débarque dans cette maison, elle l'a pas visitée, elle s'adopte. On va écouter une archive de Marguerite Duras qui parle de ce motif de la maison.
C'est à force d'y être, peut-être, que la maison m'est apparue comme un contenant. C'est une vision que je traduis là. Vous voyez, c'est pas une idée. On peut voir une maison comme un lieu où on se réfugie, on vient chercher un rassurement. La sécurité, la famille, la douceur du foyer, etc. Dans une maison, il y a aussi l'horreur de la famille qui est inscrite. Le besoin de fuite. Toutes les humeurs suicidaires. C'est un tout, hein. C'est que les gens reviennent chez eux pour mourir d'habitude, vous voyez. Ils préfèrent mourir chez eux, ils préfèrent... Dès qu'on est dans un certain marasme, on veut rentrer chez soi. C'est un lieu mystérieux, la maison.
C'est un extrait du film de Dominique Auvray sur Marguerite Duras, c'est un film de 2002 où Dominique Auvray compose une sorte de portrait comme ça à partir de beaucoup d'archives. La maison est un endroit très important, elle est un endroit qui ancre le roman Anne Scott, mais elle est aussi presque un personnage. Qu'est-ce que vous diriez d'elle, de cette maison-là ?
Ben, c'est pas la mienne, donc c'est pas chez moi. C'est une maison qui est louée et qui est tellement dysfonctionnelle sur plein de plans que je peux pas me projeter à très long terme. Duras, soit elle parle de... J'ai le livre de ce film, mais je me souviens plus. Qu'est-ce que c'est la maison de famille ou c'est une maison qu'elle a achetée?
Je pense que c'est Neuf, le château, à mon avis, mais je pense qu'elle parle surtout du rapport à la maison, de manière générale.
Mais moi, j'ai ce rapport-là, mais avec certaines pièces, pas la totalité de la maison, puisqu'elle n'est pas à moi. Mais dans ma chambre ou dans mon salon, c'est comme un cocon, et je comprends. Et on rentre chez soi quand on est blessé, et on rentre chez soi quand on veut se reposer et se faire du bien aussi. Donc je suis tout à fait d'accord avec elle, mais j'ai pas encore cette maison-là. Ce sera la prochaine, j'espère.
Elle dit aussi que la maison, ça contient la mort, ça contient l'horreur de la famille. Donc vous diriez que, par exemple, pour vous, pour cette narratrice, comme c'est une maison d'adoption, il n'y a pas d'histoire.
Non.
Il n'y a pas de saleté sous les meubles.
Non, il n'y a rien du tout, oui. Oui, non, il y a ce qu'on y met, c'est tout. Il faut juste y mettre le moins de choses pesantes possibles, puisque c'est là qu'on... Il faut vivre du mieux possible avec soi-même. Sinon, se complique la vie. Donc, non, y a pas... Moi, j'ai pas de maison de famille. Il n'y a pas de maison dans ma famille. Donc,
D'ailleurs, il est assez peu question des maisons qu'elle a quittées. Pourtant, il est plus question de la ville qu'elle a quittée, de Paris. Qu'est-ce que ça ressemble ? Qu'est-ce que ça représente, pardon, Paris pour Alex ?
Les voisins, trop bruyants.
Non, mais pas que Anne Scott.
Non, non, si, si, j'avais une voisine qui vivait la nuit avec un caisson de basse, et c'est très compliqué, parce que vous dormez plus, vous vivez au rythme de l'autre. Et un jour, je me suis dit, plus jamais de voisin. Et au lieu de chercher un autre appartement dans Paris, j'ai cherché à l'extérieur. C'est juste, c'est... Ça rend fou de pas dormir, quand c'est à cause de quelqu'un. Donc, si elle nous écoute, j'ai quitté Paris à cause d'elle. C'était ma voisine de palier.
Mais Paris, c'est aussi un rapport à la nuit, un
oui,
rapport à l'art.
Oui, mais il n'y a plus de nuit. Y a
mais
plus
d'accord,
de...
mais ça existe quand même dans ce roman. C'est le contrepoint du Finistère, c'est le contrepoint de la Bretagne. C'est-à-dire qu'elle écrit qu'il y a des chapitres qui s'appellent « Pendant ce temps-là à Paris, pendant ce temps-là à Paris bis ». Il y a une espèce de vie qui continue, qu'elle a choisi de quitter quand même.
Oui, parce qu'elle l'a déjà vécu et qu'on ne peut pas tout le temps faire la même chose. Mais à Paris, il n'y a plus que l'art contemporain. Moi, je n'aime pas l'art contemporain, j'aime l'art moderne. Donc, je préfère être avec les livres de mon père sur la moderne, qu'à Paris, dans des vernissages d'art contemporain, c'est pas mon truc. Donc c'est pas ma, j'allais dire ma génération, mais c'est idiot de dire ça, mais ça me parle pas, quoi, ça me touche pas. Donc il y a plus rien à Paris pour moi. Il y a juste un quadrillage de rue, de néon, mais il y a pas de nuit, il y a pas de musique.
Il y a même pas de souvenirs.
Mais si, bien sûr, il y a que ça. Mais c'est que du souvenir. Il y a plus de vie la nuit à Paris. Il y a quoi, des vernissages, des dîners chez les gens, mais une fois que vous les avez faits, vous les avez faits. On ne va pas faire ça jusqu'à la fin de nos jours, il faut varier un peu.
Est-ce que vous l'avez aimé, cette ville ?
Paris ? Mais bien sûr, je suis toujours parisienne, je ne suis pas devenue bretonne. Mais si vous prenez, plein d'artistes sont allés, plein de musiciens sont allés enregistrer ailleurs. Bowie est allé enregistrer en Allemagne, en France, les Stones sont partis sur la Côte d'Azur. Tout le monde bouge, il faut une autre ambiance. Donc aujourd'hui, c'est la Bretagne, demain peut-être ce sera, j'en sais rien, moi, l'Irlande ou... La Norvège, j'en sais rien. C'est beau partout. Dès l'instant qu'on n'a pas d'attache, on peut aller n'importe où.
À la fin du texte, elle dit qu'elle ne reviendra à Paris que quand Paris sera redevenu un dédale de poésie vitale, qu'il y aura quelque chose qui sauve, notamment dans l'art. Il n'y a rien qui est complètement fermé pour cette femme. On a l'impression que Paris reste une sorte d'horizon. Paris ou un autre... Enfin, ce que je veux dire, c'est que presque c'est pas grave, presque c'est pas important que ce soit Paris.
Non, ça peut être Berlin, ça peut être New York, mais il faut la passion, il faut un vrai truc passionnel, qu'il se passe quelque chose, qu'il y ait un sursaut, un réveil, pas forcément sur la culture, mais sur l'énergie entre les gens, que les gens aient envie de s'amuser, qu'ils aient... Quand on était môme, on se jetait contre les murs.
Ouais, mais vous dites quand on était môme, Anne Scott, est-ce que vous pensez que la question de l'énergie, c'est l'énergie de la ville ou c'est l'énergie en soi? Ce que ce personnage d'Alex, elle nous raconte aussi beaucoup comment les choses, elles se sont modifiées en elle.
Je pense que les mômes d'aujourd'hui s'amusent beaucoup avec la musique qu'ils aiment, mais c'est pas la mienne.
Bah oui.
Avec les films qu'ils aiment et ils sont dans leur truc. Ça marche pour eux. Moi, ça marche pas pour moi ce qu'ils font maintenant et ce que j'aime n'existe plus. Donc, la fin, c'est peut-être une pirouette pour dire, bah non, c'est fini, quoi. Il faut l'accepter, je sais pas. Mais ça ne veut pas dire que je vais vivre au milieu de nulle part tout le temps. Mais là, je suis sur une plage et c'est mieux qu'être au bout de la rue, quoi.
Elle laisse aussi des amours, elle laisse des amitiés. Elle ne les laisse pas complètement au sens où elle ne les quitte pas, mais elle s'en est éloignée, cette narratrice. Et ils vivent pour nous, notamment par des messages, par des coups de fil, par des visites plus ou moins réussies. On va entendre un extrait de votre texte. C'est un mail de Jean. Ouais, je vois ça d'ici, ta Bretagne. Ça va te faire marrer un mois de te prendre le vent dans la gueule sur la plage. Et puis, ça va être l'hiver et tu vas te cailler. Tu vas devenir folle de connaître personne et de même plus entendre le son de ta propre voix. Il n'y aura plus de serveur de café pour te faire te sentir la plus belle du quartier. Plus de potes qui ont toujours un plan pour la soirée. Plus de bobos qui t'arrêtent sur les trottoirs pour te dire qu'ils ont adoré ta BO du dernier machin. Tu vas regretter à mort ton chinois, tes pizzas et tes coups d'un soir. À force de te faire chier, tu vas avoir envie de te défoncer. Mais il n'y aura rien. Et tu vas te mettre à picoler alors que c'est pas ton truc. Et tu vas prendre 20 kilos. Tu vas plus ressembler à rien sans ta bagnole pour aller chez le coiffeur. Tu te diras que finalement, des orgasmes avec quelqu'un dont t'étais pas raide dingue, bah c'était toujours mieux qu'un truc à pile. T'auras des insomnies à penser à tout le monde qui vit là, très bien, loin de toi, sans toi. T'auras des attaques de panique de ne plus pouvoir composer sans rien là-bas, pour t'inspirer. Tu vas te bourrer de Xanax pour calmer la terreur en attendant que le jour se lève. Et tu finiras dans un club de poterie pour connaître au moins une personne avec qui bouffer de la brioche sous vide le jour de ton anniversaire. Ouais, je vois ça d'ici. M'envoie pas de carte postale. Bah non, Jean, elle dit à haute voix, en rapportant l'assiette à la cuisine. Merci, mais il ne va rien se passer de tout ça. Je vais être foutrement bien ici. Je vais enfin m'entendre penser, je vais faire du bon boulot. Et là, je vais commencer une bio de Coltrane et demain, j'irai voir la mer.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Anne Scott, on vient d'entendre un extrait de votre livre Les Insolents, paru aux éditions Kalman-Lévy, lu par Jeanne Aléos. Ce mail, il arrive très rapidement au début du texte. Il est assez drôle, il est en même temps cruel et il participe d'une sorte de ton du début du texte. C'est qui Jean pour Alex ?
Jean, c'est son meilleur ami avec qui elle a fait l'erreur de coucher et elle a perdu le petit ami et le meilleur ami et qui lui pardonne pas et qui lui en veut de partir. Mais il se passe rien de tout ça là-bas, en fait. Il y a pas tout ça. Ça, c'est trop intellectualisé de sa part quand il écrit ça. C'est vraiment un
mec. Vengeur.
Oui, c'est un peu cruel, mais ça se passe pas comme ça. Moi, je suis jamais seule là-bas. Je suis entourée de... Il y a tous les livres de mon père qui sont sur tous les artistes possibles et imaginables, de Raphaël au Gréco, en passant par... Il n'y a pas que la Renaissance, il y a tellement de choses. Plus moi, les fantômes que j'ai dans la tête, je suis entourée de génies en permanence. Je ne me sens jamais seule. Je n'ai pas ressenti une seule fois quoi que ce soit de ce qu'il y a dans ce mail. Pas une fois.
Oui, elle dit, je vais commencer une bio de Coltrane, et un petit peu plus tard, elle parle vraiment de la fameuse grande conversation qu'elle peut entretenir. Il se trouve qu'elle est dans le livre compositrice de musique de film, il y a quelque chose de son rapport à l'art qui est très fort, qui se transpose. Est-ce que vous diriez ça comme ça, Anne Scott, sur le rapport au vivant, aux fleurs sauvages, au chemin, au vent, à la plage?
Je parle pas aux fleurs. Je parle aux lapins, parfois, que je vois dans les dunes. Mais je parle à tous les écrivains que j'aime dans ma tête, oui, surtout ceux qui sont morts. Oui, je leur parle du matin au soir. Ou bien à des musiciens. Et non, on ne parle pas à la nature. On parle pas à des vagues, on ne parle pas au ciel, mais on arrête devant ces choses. Ouais.
Oui, c'est ça, on peut avoir je ne parlais pas nécessairement de parler, mais le rapport à l'art, ça peut se transposer éventuellement dans un rapport pas nécessairement esthétique, mais déjà émotionnel.
Très étrangement, quand les affaires de mon père sont arrivées chez moi, j'ai commencé à ouvrir des livres d'art moderne et après, quand j'allais à la plage, je retrouvais dans le sable, dans les petits cailloux et des trucs comme ça, comment on dit en français, des patterns.
Des agencements, des motifs.
Ouais, qu'on voit dans certains tableaux d'art moderne et je me suis dit, mais ces mecs-là, en fait, ils ont peint la nature, en fait. Il y a des épaisseurs d'algues et tout de suite on a l'impression de voir un soulage, des grosses algues noires épaisses, ou bien, ouais, je sais pas, il y a rien qui me vient là tout de suite.
Elle dit ça d'ailleurs, il y a, je crois, un chapitre qui s'ouvre comme ça, qui parle de l'expérience quasi extatique d'une plage sauvage comme ça, sans personne.
Mais il y a personne. Il y a à peine une personne avec un chien entre moi et la plage, entre chez moi et la plage, et sur la plage elle-même, il y a personne. Mais personne. C'est-à-dire, vous pouvez hurler, vous pouvez pleurer, vous pouvez rire, danser, courir. Il n'y a personne. De novembre à mai. Après, c'est fini. Après, ça redevient normal. Après, c'est envahi. Mais il n'y a vraiment personne. C'est juste magique.
Et il y a plein de monde dans sa tête. Il y a donc Jean. Elle se pose des questions. Elle se demanderait qu'est-ce que ça aurait comme allure s'il décidait de revenir, s'il décidait de lui réécrire. Il y a des anciennes amours, des anciennes amantes. Et puis, il y a un jeune personnage qui s'appelle Léo. Et on va écouter la question de Sandra. C'est notre auditrice, membre du book club. Elle a été attrapée par ce personnage-là, Anne Scott.
Bonjour Anne Scott, j'aimerais vous féliciter pour le prix Renaudot pour Les Insolents, prix amplement mérité. J'ai été emportée par les personnages lucides et troublants qui nous invitent à une profonde réflexion sur notre quête de valeur. Puis vous avez également ce talent de saisir le déclic qui modifie la trajectoire d'une vie, ce moment vertigineux où tout vacille et rien ne sera plus jamais pareil. J'ai été également touchée par le personnage de Léo, qui est beaucoup plus jeune que les autres, et j'aimerais savoir comment est né ce personnage.
Un grand merci à Sandra pour cette question.
Merci Sandra.
Anne Scott, alors comment est né ce personnage de Léo? Peut-être on le replace dans l'histoire déjà, son rapport à Alex.
C'est un jeune garçon de 30 ans qui marche, qui se promène sur la plage au bout de la rue. Enfin, elle a une plage au bout de la rue et il est dessus et ils se connaissent pas. Et lui, il l'a vu, mais elle, elle le remarque pas.
Lui, il l'a plus que vu. Lui, il est assez intrigué par elle. Ouais. Il a envie qu'ils se rencontrent.
Mais lui, il pense que parce que quand on lit des choses sur Internet sur quelqu'un, on le connaît. Donc, il la cherche, il la trouve. Et puis, ça marche pas comme ça, la vie. Malheureusement. Mais alors, Léo, en fait, ça part d'une... Dans la réalité, c'est une fille de 30 ans que j'ai rencontrée il y a des années, donc qui est un peu plus... Et ça lui est arrivé, je crois, à 25 ans.
Qu'est-ce qui lui est arrivé?
Elle s'est fait agresser un soir dans la rue. C'était pas un viol. Elle s'est juste fait démolir par un type qui a passé ses nerfs sur elle. Exactement comme ça s'est passé dans le livre. Elle l'a vécu exactement comme c'est décrit dans le livre. Elle m'a donné cette part-là de son histoire pour que je la raconte. En fait, elle me l'a raconté comme on raconte quelque chose qui nous arrivait à une amie. Et je me suis demandé si je mettais ça par écrit, ça pourrait l'aider à s'en détacher. Et apparemment, c'est un petit peu le cas. C'est-à-dire que quand le livre était fini, qu'elle l'a lu, elle a dit « j'arrive à mettre un peu de distance et avoir l'impression que c'est devenu un personnage de livre et que c'est arrivé à quelqu'un d'autre. J'en ai fait un garçon exprès pour qu'elle puisse mettre doublement de la distance. » Parce que quand vous faites attaquer comme ça dans la rue et détruire, je ne sais plus combien de fractures j'ai mis dans le livre qu'elle a, mais enfin, c'est monstrueux. Sans raison, hein. C'est juste un type qui l'a attrapé sur un trottoir, qui l'a emmené au fond d'une allée et qui l'a démoli méthodiquement pendant de longues minutes. Et elle a passé une année entière quasiment à l'hôpital et en rééducation.
Mais en même temps, Anne Scott, on n'écrit pas que pour les autres. Si vous faites entrer cette histoire-là, l'histoire de Léo ou de cette jeune femme-là.
Parce que je voulais quelqu'un de seul, je voulais que des gens seuls.
Mais seul et violenté. C'est-à-dire qu'il y a aussi une grande part de terreur, de violence, de suicide, de mort par overdose, c'est-à-dire que cette femme qui est seule et qui est dans la paix des plages et qui cherche ça, qui veut la paix, le silence, elle est visitée par ce que le monde peut faire de tragiquement violent.
Ouais. Et c'est peut-être pour ça que... Enfin, je ne veux pas dévoiler ce qui se passe entre eux, mais c'est peut-être pour ça que ça ne se passe pas comme il veut lui, parce qu'elle est protégée de ça. Mais... Non, je n'ai pas écrit ça pour aider quelqu'un. Ou pour,
je ne croirais pas.
Non. J'ai pris l'histoire parce qu'elle me plaisait et que quand on écrit, on pioche et on prend. Mais après coup, je me suis dit, si ça peut avoir ça comme conséquence, ce serait pas mal. Et c'est vrai que la personne m'a dit que le fait que j'ai transformé ça en garçon, ça met une distance et ça lui permet d'avoir l'impression que c'est arrivé à quelqu'un d'autre, peut-être, en partie. Et ça, c'est pas rien. Ça l'aidait pas à vivre ce qui lui est arrivé.
Et toutes ces autres histoires qui sont des histoires difficiles, c'est-à-dire on est sur des jeunes hommes morts, enterrés, des secrets, des horribles secrets de famille, des choses très lourdes à porter. Il y a quelque chose qui contrebalance, enfin c'est comme s'il y avait, oui je le redis quoi, une sorte de contraste entre le paysage que vous décrivez, Anne Scott, qui est aussi blanc et bleu que la couve de votre livre, et le noir, quoi, c'est
mais
noir.
Mais parce qu'elle est dans la lumière, elle, c'est tout.
Ouais, elle est dans la lumière, ouais.
Ça part d'ombre ailleurs, mais pas au même endroit que les autres. Donc elle est... ouais, c'est plus lumineux.
Mais elle est protégée, vous diriez?
Je sais pas. Si nous arrive rien d'atroce, c'est qu'on l'est, oui. Le nombre de gens qui subissent des trucs épouvantables et injustes. Quand ça nous arrive pas, c'est qu'on est protégé par quelque chose, non? C'est, enfin.
Moi, je crois beaucoup au hasard, mais.
Vous croyez beaucoup au hasard?
Ouais.
Ah ouais, moi non. Je dis pas que les gens auxquels il arrive des choses atroces l'ont cherché. Je dis pas ça du tout. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours des liens entre des choses.
Mais d'ailleurs, c'est un livre qui s'intéresse énormément aux liens. C'est presque le titre. Il me semble que les insolents, je sais pas si on mettait les lettres dans un autre sens, on y trouverait quelque chose qui a à voir avec la façon dont on s'attache, dont on se détache, dont on peut ou pas vivre ensemble. Tout à l'heure, vous disiez le hasard et la rareté de rencontrer quelqu'un avec qui c'est possible un peu bien. Je voudrais qu'on écoute un extrait de votre texte, Anne Scott, un deuxième extrait. Où la narratrice a l'impression qu'à l'endroit où elle se trouve, les gens manquent de rien.
«
Les promeneurs sont si rares et semblent toujours tellement interchangeables, quelconques, comme étrangement absents dans ce décor sauvage au lieu d'en faire partie. Ou peut-être qu'en ville, on remarque ce que les passants dégagent parce qu'ils ont des choses dans les mains, des sacs de courses ou un téléphone, ce qui restitue un contexte et une partie de leur caractère. Alors qu'ici, ceux qui arpentent parfois la plage ont les mains dans les poches ou les bras ballants, sans indication d'où ils viennent, ni de qui ils le sont, comment ils vivent et si ça leur pèse de venir se promener seuls. Quant à ceux qui marchent par deux, ils sont toujours vieux. Sans qu'il soit possible de savoir s'ils s'aiment toujours ou s'ils se supportent pour ne pas attendre la mort seule, et à chaque fois qu'elle en voit, ça lui fait se demander si être capable de se passer de compagnie fait d'elle quelqu'un de vraiment costaud ou d'asocial. Ici, où qu'elle aille, personne ne la remarque. À la plage, personne ne se retourne sur son passage. Comme si ces gens qui se promènent seuls, et qu'elle suppose être seule, n'avaient plus besoin d'être séduits ou de séduire. Comme si leur renoncement ou leur acceptation de leur solitude était devenue leur identité. Seule, et puis voilà. Au supermarché, à part les caissières, personne ne la calcule non plus. Dans les allées du Leclerc, aucun regard à la dérobée de père de famille. Chacun fait ses courses, comme s'il n'avait besoin de rien d'autre que de remplir son caddie. Comme dirait Jean, pas surprenant qu'une grande fille maigre, pas maquillée, en jean et en basket, soit à des années-lumière de leur fantasme de base. Mais ce n'est pas que ça. On dirait qu'ils ont ce qu'il faut. Ou du moins, qu'ils se sont fait une raison. Qu'ils savent ce que vaut ce qu'ils ont. Et qu'ils n'ont pas envie de le mettre en danger. C'est l'impression qu'elle a quand elle regarde tout ce petit monde prendre des choses dans les rayons des allées du Leclerc, les entasser sur le tapis roulant de la caisse, ou regagner sa voiture en sortant. Que personne ne manque de rien ici.
Un nouvel extrait de votre livre Les Insolents, Anne Scott. On ne sait pas si personne ne manque de rien. Et la première phrase laisse entendre que peut-être tout le monde manque de quelque chose et que tout le monde est seul. Mais elle a l'illusion, Alex, en se promenant dans le supermarché, que ici, ça va. Et il me semble qu'il y a quelque chose qui se transforme. Peut-être de sa première insolence de jeunesse, elle aurait pu regarder tous ces gens-là, là, du Leclerc, en se disant justement, ils ont renoncé. C'est nul. Et là, c'est pas comme ça qu'elle le regarde.
Non, mais c'est pas ça. C'est que y a pas besoin d'être condescendant avec les gens qui vivent différemment. Elle les regarde et elle voit bien qu'ils ont des choses à perdre. Donc ils prennent pas de risques, ils vivent pas, ils se mettent pas en danger. C'est tout. Ils ont le droit.
Mais elle les condamne pas. J'ai l'impression
non,
qu'elle
parce
réalise
qu'elle est
aussi.
Pas là pour juger. Je sais pas si elle réalise, mais elle est pas là pour juger quoi. On peut pas juger les gens juste parce qu'ils vivent autrement. Elle préférerait qu'il y ait des gens qui se mettent en danger et qui les gens se cognent ou pas. Et dans ces supermarchés, ils vous évitent soigneusement parce qu'ils sont dans leur... Ils ont des choses à perdre.
Mais c'est pas moins bien. Moi, je trouve que ce texte-là, il dit aussi que c'est pas moins bien.
Non,
en fait,
mais parce qu'il n'y a pas de jugement nulle part dans ce texte. Parce que chacun vit comme il veut, quoi. Mais ça, il faut vieillir un peu pour arrêter de critiquer les autres et de se croire plus malin que les autres, surtout. Et c'était surtout ce que je voulais pas. Je voulais surtout pas que ce livre donne aux gens l'impression qu'ils sont lâches, de pas partir, qu'ils sont idiots, qu'ils ont rien compris, que c'est pas comme ça qu'il faut vivre, qu'il faut bouger, qu'il faut se mettre en danger. Non, les gens font comme ils veulent. J'en ai marre de ces bouquins où le lecteur est pris à partie, ou alors on lui donne l'impression qu'il est lâche, ou faible, ou stupide, ou qu'il a rien compris, ou qu'on va l'éduquer. Mais non, quoi. Il y a de la place pour tout le monde, et chacun a le droit à... Qui on est pour savoir que les gens ont renoncé? Il y a des gens qui aiment pas la passion. La passion, c'est quoi? C'est du vent. Donc, il y a des gens qui veulent pas tout mettre en danger pour du vent ou pour aller quoi? Coucher avec une fille qu'ils ont croisée dans une allée du Leclerc à l'arrière de la voiture 5 minutes. Ils savent même pas si ça vaut le coup. Non, mais je comprends. Je comprends qu'ils vont pas le faire. Ils ont des choses à perdre. C'est parce que moi, j'ai rien à perdre qu'il faudrait que les gens en face, qui pourraient me plaire au détour de du rayon de la boucherie ou je sais pas quoi, ne sont pas dans le même cas, quoi. Et il faut pas les juger. Chacun fait comme il peut, je pense.
Elle comprend, j'ai l'impression que vous dites non, elle réalise pas. Moi, j'ai l'impression qu'au détour de toutes ces pages, Anne Scott, votre narratrice, comprend aussi qu'il y a du bon à chérir ce qu'on a. La fin de ce paragraphe, oui. c'est se contenter de ce qu'on a. Et c'est pas que, en effet, il y a rien de méprisable là-dedans. En tout cas, moi, je trouve dans vos pages, on se dit que c'est beau aussi.
Mais bien sûr que c'est beau, mais c'est pas donné à tout le monde. Il faut être capable de supporter quelqu'un et d'être soi-même supportable pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans. C'est pas donné à tout le monde.
Elle le dit d'ailleurs de ses amis. Alex, elle parle, je sais plus, je crois que c'est de Margot, que ça fait partie des gens avec qui elle est capable un peu de vivre.
Oui, oui, ça
24 doit être... heures sur 24,
oui,
oui. Mais c'est rare.
Il y en a pas beaucoup, oui.
Il y en a pas beaucoup,
ouais. C'est du gros travail. Non, mais c'est un gros boulot de se rendre assez acceptable pour les autres et de les prendre comme ils sont. Donc, quand tout à l'heure, je souriais quand Jeanne lisait le passage sur ceux qui sont par deux sur la plage, ils sont tous vieux, mais ils sont arrivés jusque-là. Mm. Ils sont deux. Moi, je suis toute seule quand je les croise. Alors, je me moque d'eux parce que, ils sont identiques, en fait. Ils se fondent l'un dans l'autre. Les femmes, on dirait des hommes. Elles ont les mêmes coupes de cheveux que leur mari. C'est étrange. Sont mal habillées là-bas, il y a pas d'effort de séduction. C'est pas des jet-setteuses, donc elles ont pas de raison de s'habiller bien pour aller à la plage. Mais je me dis ouais, mais n'empêche, regarde, ils sont un truc que toi t'as pas, quoi. T'es peut-être un peu moins mal habillée, mais toi t'es toute seule. C'est ce que je me dis. Donc on peut pas mépriser les gens juste parce qu'ils sont différents, c'est pas possible. Parce qu'on vaut pas mieux, quoi. Personne ne vaut mieux que le voisin. On fait juste avec ce qu'on a, comme on peut. Je crois, non?
À la fin, il est question d'un art qui peut-être un jour de nouveau sauve. Est-ce que vous diriez que, en tout cas, vous, écrire des livres, on a commencé par là, Anne Scott, l'idée d'apprendre à écrire mieux, est-ce que ça sauve? Ou si ça sauve pas, qu'est-ce que ça fait?
Je sais pas, mais j'étais tellement émue au moment de l'annonce du Renaudot qu'avant la fin de la nuit, avant il y avait une fête après chez Calman Levy, j'étais m'asseoir dans un coin pour écrire les deux premières lignes du prochain livre, parce que j'ai eu peur. Je me suis dit, où mon cerveau s'en va, où est mon cerveau, j'ai eu peur. Et je me suis dit, là, la chose qu'il faut enclencher immédiatement, tout de suite, aujourd'hui, c'est le prochain. Parce que ça sauve de tout. Parce que ça remet tout à sa place. Et parce que ça emmène toujours quelque part, quoi. Et en plus, ça donne. Et on peut tout faire. C'est-à-dire, on est chef d'orchestre, vous pouvez tout faire. Vous pouvez choisir le sujet, le verbe et le complément. Il n'y a personne pour vous dire, ah non, moi je vais me mettre là. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez être tout le monde. Vous pouvez être un vieux monsieur, un chien, un chat, un crapaud, vous pouvez être n'importe quoi dans le paysage. Vous pouvez tout être et personne ne va vous dire, ah oui, mais non, mais là, vous voyez. Et c'est le seul moment où vous êtes sûr que vous êtes à votre place. Quand c'est votre boulot et que vous aimez le faire, il faut aller le faire tout de suite quand ça ne va pas trop. Et quand on vous annonce un prix que vous avez attendu toute votre vie, ça ne va pas du tout.
Vous l'avez attendu toute votre vie?
Moi non, mais mon père, oui. Et comme il est mort l'année de ce prix, c'est compliqué. Ça me rend hyper triste qu'il ne soit pas là pour voir ça. Après, peut-être c'est lui qui l'a eu, c'est peut-être pas moi. Peut-être c'est lui qui l'a de là-haut, qui a tiré des ficelles, mais c'est donc pour pas perdre pied, c'est ça en fait, c'est le côté aberrant du truc. Vous avez envie de quelque chose parce que ça fait plaisir aux parents, c'est super important. Il y a beaucoup d'artistes qui sont pas soutenus par leurs parents, mais quand on a la chance de l'être, on a envie qu'ils soient remerciés de leur vivant. Et c'est pas que ça les remercie parce qu'ils accordent pas plus de valeur que de raison à telle ou telle chose, mais ça rend vachement fier. Et il n'y a que ma mère qui est là, donc je suis contente pour elle. Mais à côté de ça, je suis triste que mon père ne voit pas ça. Et donc, au moment où il y a une annonce comme ça, il manque la personne. Il y en a 50 autour de vous, il en manque une, et c'est celle qui va manquer, qui fait que vous ne voyez pas les 50. Donc, il fallait, pour ne pas perdre pied, aller écrire deux phrases, juste deux phrases.
En tout cas, vous l'avez beaucoup évoqué dans cette émission, donc on peut dire qu'il vit dans vos mots.
Oui, il vit avec moi pour l'instant, ouais. Ouais, je pense que ça se passe comme ça quand les gens partent pendant un temps. Enfin, pareil, qu'il faut pas les retenir trop longtemps, mais ouais, je peux pas faire sans pour l'instant.
Merci beaucoup, Anne Scott. Merci. Les Insolents, apparu aux éditions Calman Levy, a donc reçu le prix Renaudot.
Merci beaucoup.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Et il est bientôt 15h50 sur France Culture. À cette heure-ci, le jeudi, nous prenons des nouvelles du livre, mais cette fois en dehors de nos frontières. Cette semaine, le Book Club prend attache avec l'Afrique du Sud, où un événement culturel vient de s'achever, la représentation au théâtre du livre La Promesse de Damon Galgut. Romain Chanson, vous nous appelez de Johannesburg. Bonjour.
Bonjour Marie.
Vous êtes le correspondant de Radio France là-bas. Cette adaptation théâtrale confirme que La Promesse, c'est un phénomène littéraire en Afrique du Sud depuis l'obtention du Booker Prize, c'était en 2021.
Oui, exactement. Les Sud-Africains ont été touchés par l'histoire de cette famille blanche, afrikaner. Il y a un couple, deux filles et un fils, des Sud-Africains moyens, dit l'auteur, qui se retrouvent dans la maison familiale au gré des enterrements de ses membres. Alors ça commence dans les années 80, on est sous le régime raciste de l'apartheid, il y a le décès de la mère, et avant de mourir, elle demande à son mari de lui promettre une chose, de léguer la dépendance au fond du jardin à Salomé, c'est la domestique de la famille, c'est une femme noire qui vit là avec son fils. Voilà la fameuse promesse, elle est simple en apparence, mais elle va hanter la maison car cette promesse, eh bien, elle se heurte à des résistances.
Alors vous parlez du succès public, il y a eu aussi un succès critique du livre, et maintenant c'est au tour du triomphe de la pièce.
Exactement, les Sud-Africains, ils se sont déplacés en nombre pour voir l'adaptation de cette histoire tragique au théâtre, ce qui fait évidemment le bonheur de Sylvain Strike, c'est la metteuse en scène, elle est passée par l'école de théâtre Jacques Lecoq à Paris, elle nous répond donc en français depuis la ville du Cap.
J'ai jamais connu ça où il y a vraiment des queues en dehors du théâtre. Je sais que ça se passe à Paris, à Broadway, au West End. Mais il y avait des lignes, si vous voulez, de gens qui voulaient acheter des billets. On s'était donné le but quand même de faire en sorte que c'était pas seulement pour ceux qui l'avaient lu. C'est aussi pour une génération de jeunes qui ne connaissent pas peut-être cette histoire ou ce théâtre. Et ça a eu un effet extraordinaire parce que beaucoup de jeunes sont venus à nous en disant « je comprends maintenant pourquoi on est qui on est ». Et ce sont des jeunes qui sont nés bien après l'apartheid, qui sont vraiment un petit peu indifférents à l'apartheid, en se disant « Toulon, on doit bouger là-dessus, ça va, ça suffit ». Mais là, je pense que cette pièce permet à beaucoup de gens, les jeunes et les vieux, et ceux du milieu, à se regarder en face d'un miroir et à dire « mais on est impliqué là-dedans et comment est-ce qu'on peut vraiment faire une différence pour s'en sortir ?»
Alors, on entend Sylvain Strike qui évoque la dimension intergénérationnelle de cette histoire. Est-ce que vous pensez, Romain, que c'est l'une des clés du succès de la pièce ?
Ah oui, parfaitement. On voit que le public, il peut s'identifier aux cinq membres de la famille, ou alors à Salomé, la domestique, ou encore aux personnages périphériques. Et puis, vous savez, les thèmes qui sont évoqués dans cette pièce, ils permettent aux Sud-Africains de toutes les générations de trouver des repères, puisqu'on avance dans le temps. On commence avec les années du régime de l'apartheid, ensuite on remonte vers l'accession au pouvoir de Mandela dans les années 90, puis ce sont les ravages du sida dans les années 2000, et enfin, la démocratie sud-africaine qui déraille avec la corruption dans les années 2010. Et puis on retrouve les grands sujets qui agitent la société d'aujourd'hui, comme la question des terres et de leur redistribution à la population noire, mais aussi le sentiment de déclassement des blancs, l'insécurité, le poids de la religion, des traditions. Et puis, puisque l'histoire, elle se déroule principalement dans une maison, c'est la question universelle de la cohabitation. Comment fait-on société en Afrique du Sud, vivre sous le même toit malgré nos différences? Et ce n'est pas gagné, comme l'indique la mise en scène de Sylvain Strike, puisqu'elle représente cette maison familiale sous la forme d'un plancher incliné, une forme de maison tordue qui attire les acteurs vers le précipice.
L'adaptation au théâtre ne devrait pas perturber ceux qui ont aimé le livre, puisque la pièce est très fidèle au roman.
Oui, le texte respecte presque à la lettre le roman de Damon Galgut, l'auteur, et pour cause, c'est lui qui a écrit son adaptation en y insufflant plus de légèreté par rapport au livre. En tout cas, son implication était essentielle pour Sylvain Strike, la metteuse en scène.
Je lui ai dit tout de suite, j'ai une condition, c'est que tu l'adaptes avec moi. Et il a été très pris par cette proposition et très content de faire partie de cette adaptation. Souvent, les écrivains doivent renier leurs droits, si vous voulez, sur les films et tout ça. Et là, il était vraiment à côté de nous, dans la salle de répète. Oui, l'humour dans le livre, c'est subtil, mais là, on a compris avec Damon, tous les deux, on a bien compris que c'est l'humour qui va faire venir les spectateurs et qui va aussi amplifier la tragédie, puisque si on commence et on reste tragique, personne va vouloir rester.
Alors après le succès de la pièce au Cap et à Johannesburg, eh bien Sylvain Strike, elle rêve d'emmener cette pièce en France, à Paris où elle a fait ses études, ou alors à Aix-en-Provence où elle a de la famille. Pour le moment, c'est le Royaume-Uni. Elle est déjà en pourparlers avec la Royal Shakespeare Company ainsi que le Barbican Centre, c'est à Londres.
Bon bah voilà, on a passé un appel depuis France Culture à toutes les salles de théâtre en France qui nous écoutent. J'espère, La Promesse de Damon Galgut est disponible en France. C'est traduit et c'est aux éditions de l'Olivier. Un très grand merci Romain. On peut réécouter toutes les lectures sans frontières sur franceculture.fr. Et là, vous allez voir, il va se passer un truc magique. Tout à l'heure, Anne Scott, vous avez parlé de votre rapport à la littérature en évoquant un jour, comme ça, vous écoutez une chanson de Nina Simone. Il se passe quelque chose de très fort. Bah, vous allez voir. Le grand jeu des pages musicales, c'est nos auditeurs, nos auditrices qui nous envoient des extraits de romans où il est question de musique. Dans vos romans, il en est souvent question. Cette fois-ci, c'est Élise qui nous l'a envoyé par l'Instagram. Vous pouvez aussi nous envoyer vos trouvailles via lebookclub@radiofrance.com. Elle a fait cette trouvaille dans un roman qui s'appelle « Les ailes collées », paru en 2022 aux éditions J.C. Lattès. C'est un texte de Sophie Debert. Après qu'ils se furent racontés ces jours passés loin l'un de l'autre, Joseph se mit à fouiller dans son sac à dos. Il en sortit son vieux Walkman et tendit ses écouteurs à Paul. C'était Nina Simone. Une reprise des Beatles, Here Comes the Sun. Depuis quelques jours, Joseph écoutait cette chanson en boucle. Elle me fait du bien. Elle me fait penser à toi, Paul. Allongés, tête contre tête, la musique les arracha aux mots. Et les deux garçons restèrent là, un long moment, sur le sable, dans la lumière vernissée du crépuscule. Reliés par leur immobilité et unis dans l'écrin solaire de cette chanson. L'été 83 s'étira ainsi, fuselé de ses bonheurs simples et inédits. Crépitement des petites blagues, de langage secret, de musique partagée et de siestes crayeuses au bord de l'eau.
Here comes the sun, little darling. Here comes the sun, I say, it's all right. It's all right. Here comes the sun, little darling. Here comes the sun, I say, it's all right.
Voilà, j'espère que ça s'entend. Je veux vraiment envoyer un grand merci à notre auditrice Élise pour ce choix littéraire, parce que terminer avec cette chanson aujourd'hui, c'est cadeau. Au son, Noé Chaban, à la réalisation, Vivien Demeyer. Un grand merci à toute l'équipe du Book Club. Un grand bravo aussi. Jeanne Aléos, Mathilde Wagman, Oriane Delacroix, Marianne Chassor, Léa Weiss-Grus, Didier Pinault et Alexandre Alaï Begovic. Vous pouvez réécouter cette émission sur franceculture.fr et vous abonner au podcast via l'application Radio France. Bon après-midi sur Culture.